Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais. Hein.
Ah, ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement, et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit. Où,
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.
Bonjour.
Bonsoir.
Bienvenue
dans Cours d'honneur.
Saison 4, épisode 13.
Ici, deux voix féminines.
Dans vos deux oreilles.
Ici, Chirine.
Ici, Swan.
Pour certains, le mois de mars rime avec printemps et beau temps.
Pour d'autres, ça rime avec mon master et ça fait peur.
Dis-moi, Swan, c'est quoi être étudiant à la Sorbonne ?
Justement, Chirine, on y répond sur Cours d'honneur, un mercredi sur deux sur Radio Sorbonne Université.
Et un samedi sur deux sur Radio Campus Paris.
Nous sommes le magazine d'info et de culture avec toujours une pointe d'humour qui fait le
tour de la Sorbonne et de ses campus.
Depuis plus de 10 ans. Pendant une heure, nous vous promettons de parler...
Théâtre.
Pour ce faire, le sieur Molière transmettra au sieur Jourdain tout le contenu de ses connaissances dans le domaine des arts de la scène et du spectacle.
De santé.
Je suis malade.
Et malheureusement, de mon master.
Je fais mon master, là, mon master. Il y a des masters, vous demandez trop de trucs. C'est quoi ce bordel, en fait ? Putain.
Voici nos promesses.
Avec la meilleure des équipes pour vous servir.
Bonsoir Elias, le fameux Elias.
Bonsoir à toutes et à tous, je me suis fait mal. Aujourd'hui, je vous ai tourné un petit micro-trottoir sur justement la santé chez les étudiants, l'accès aux soins.
Ok, trop cool, on a hâte d'entendre ça, pardon.
On a aussi Alice parmi nous ce soir, bonsoir.
Coucou les filles. Alors... Après tous ces épisodes sur un peu la dépression politique, je vous ai préparé une interview avec Stéphane et Mattia qui va parler théâtre, militantisme au théâtre. Voilà.
Grande star.
Et on a une petite nouvelle, Jade. Bonsoir.
Bonsoir, enchantée. Je vous ai préparé du coup une chronique du bruit sur le cinéma, sur un petit peu qu'en étudiant, comment on peut payer un peu moins cher le cinéma, les bons plans qu'on peut trouver à Paris.
C'est pratique, ça.
Ça nous intéresse vraiment, ça. On a aussi Ellie ce soir.
Salut les filles. Alors moi aussi, je vous ai préparé une petite chronique sur le cinéma, mais le cinéma en lien avec la Sorbonne.
Ok, super.
Légèrement différent.
Bonsoir Lavinia, évidemment.
Hello les filles. Alors aujourd'hui, j'ai fait un duo avec Clara.
Et ouais, c'était trop bien.
On a fait une carte postale sur rien d'autre que...
La cour d'honneur.
Eh oh. Oui.
On a hâte d'entendre ça et bonsoir à Clara aussi.
Oui,
bonsoir, ravie d'être là.
Sans oublier évidemment notre grand philosophe Thomas Hobbes, notre champion de football, Thomas Müller. Et non, c'est encore le fameux, l'unique, le célèbre Thomas Schnell derrière le platine.
Bonsoir à tous, moi ce soir je vous donne 5 bonnes raisons de ne pas faire de master.
Sympa.
Nice, ça donne envie, ça motive. Et bien sur ce, faites comme chez vous, chers auditeurs, alors installez-vous et prenez place du haut de l'amphi.
Dans votre chambre de bonne ou aux toilettes sur le palier.
Bienvenue dans la cour d'honneur de la Sorbonne. Et pour bien commencer, on se met dans l'ambiance avec la carte blanche, l'édito de Radio Sorbonne.
Faire peur aux bourgeois, eh bien c'est leur seule façon de montrer qu'ils existent.
Là, je suis vraiment fichée.
Carte blanche. C'est l'un des moments clés dans le parcours de tout étudiant. Quelques années après Parcoursup, revoilà l'épreuve de la plateforme de formulation des vœux. Cette fois, la bête s'appelle Mon Master. La date limite pour confirmer ses choix est derrière nous. Les dés sont jetés. Thomas, qui n'a jamais utilisé Mon Master, tu nous rassures avec 5 bonnes raisons de ne pas trop prendre au sérieux cette étape.
Oui, d'abord parce qu'on va pas se mentir, on va tous finir prof. Hein. Regardez-moi, je me rêvais grand journaliste, je finis à donner des cours à des petits jeunes à la Sorbonne. En plus, Elisabeth Borne veut permettre aux étudiants de devenir prof dès bac plus 3, donc plus besoin de master. Deuxième raison, parce que franchement, écrire un mémoire, c'est long, c'est ennuyeux, et j'en ai jamais fait, moi d'ailleurs, et ça ne me manque absolument pas. Raison numéro 3, parce que ChatGPT va y arriver bien mieux que moi. Raison numéro 4, parce qu'on n'est jamais aussi heureux qu'en licence. Moi, c'est la période la plus heureuse de ma vie, avant bien sûr de vous avoir tous rencontrés, l'équipe, hein. Mais je serais bien resté en licence toute ma vie. Raison numéro 5, eh bien parce qu'en redoublant, on continuera de faire cours d'honneur ensemble l'année prochaine.
Merci. Merci Thomas, merci. pour ces sages paroles. Vous êtes toujours sur Radio Sorbonne.
Il est 18h03 sur Radio Campus Paris.
N'oubliez pas, dans la vie, il y a des hauts.
Il y a des bas.
Et maintenant
place au débat.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
L'accès aux soins pour les étudiants, on y a toutes et tous été confrontés entre les frais de santé parfois trop élevés, le manque d'informations et les mois à patienter avant d'avoir un rendez-vous. Se soigner quand on est étudiant peut vite devenir un parcours du combattant. La situation peut-elle s'améliorer? Les étudiants connaissent-ils les aides mises à leur disposition? Elias est parti enquêter.
C'est difficile d'avoir une mutuelle pas chère. Avec des bons soins, j'ai vu récemment, c'est à peu près genre 40 boules par mois. C'est 40 euros globalement par mois à mettre pour une assez bonne mutuelle qui va bien soigner, que ce soit pour des lunettes ou pour une hospitalisation. La différence de prix et d'accès à certains soins est assez aberrante. Par exemple, un médecin généraliste qui est à peu près 10-20 euros et dont l'accès est assez rapide. Ça dépend parfois des médecins généralistes. Malheureusement, la mienne, j'attends 2 mois si je suis pas fou. Le temps d'attente de genre 6, 8, 1, 2 ans pour des soins spécialistes et avec un prix assez exorbitant si on n'a pas de mutuelle.
Je trouve déjà que là, pour ma part, c'est à Sorbonne, on a beaucoup accès aux soins, ils nous proposent plein de trucs. C'est pas assez facile d'accès ou ils donnent pas assez d'informations. Je me place pour un étudiant étranger. Ça doit être compliqué ou c'est pas assez fourni, il faudrait mieux expliquer. Je vois pas d'autres trucs où ils pourraient améliorer, mais je trouve qu'ils font quand même des trucs bien.
La Sorbonne, ce qui est bien avec cette université, c'est qu'elle permet aux étudiants, bon, on est nombreux donc c'est pas mal, d'avoir accès à plein de soins différents, de tout type. Je suis en première année, du coup, j'ai pas encore tous les détails de tout ça, mais j'en profite pas assez, je trouve. J'en ai profité une seule fois, donc ils font gratuitement des tests de dépistage. Donc ça c'est très important et c'est super sympa qu'ils le proposent, parce que mine de rien c'est super important d'en faire, et qu'ils le proposent aussi facilement comme ça et gratuitement pour les étudiants et pour nous les jeunes, c'est vraiment génial.
Bah personnellement moi je viens de province et donc j'ai pas de médecin traitant, mais malgré tout j'ai pas de difficulté à trouver des médecins, que ce soit sur Doctolib ou sur les plateformes de libre service où il y a des médecins qui sont disponibles en visio. Mais c'est vrai que je pense qu'en province ouais, c'est peut-être un problème qui est rencontré et par les étudiants et par la population en général.
Étant étudiant alternant, je dirais qu'il y a juste un petit souci au niveau de l'accès des soins à ce niveau-là. C'est la difficulté un petit peu à s'aménager des plages horaires en fait, pour pouvoir se rendre au rendez-vous par rapport à un contrat où on doit être sur 35 heures et qui est souvent poussé à plus. Et donc il peut y avoir une problématique de temps, en tout cas de gestion du temps à ce niveau-là.
Alors qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce que vous pensez la même chose que les étudiants interrogés? Est-ce que vous avez votre propre avis?
Alors moi je trouve que ça manque d'exemples tout ça, parce qu'ils sont beaucoup à dire qu'ils n'en profitent pas assez, ou alors qu'il y en avait un qui disait qu'il en avait profité une fois, sinon beaucoup disent qu'ils devraient plus s'informer et qu'on manque d'informations aussi. Ça je suis plutôt d'accord, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne vois pas trop d'affiches, d'informations sur ça.
Ben, je suis assez d'accord et c'est vrai que bon, depuis que je suis arrivée à Paris, j'ai pas eu trop recours à la santé, donc ça va. Mais c'est vrai que moi, je viens de province et du coup, c'est vrai qu'avant, c'était assez compliqué pour avoir un rendez-vous. Il fallait attendre plusieurs mois. L'accès aux soins n'était pas ouf. Il fallait faire plusieurs kilomètres pour trouver un médecin. J'ai eu recours à plusieurs médecins généralistes parce qu'il y en avait plein qui partaient. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué et de plus en plus, j'ai l'impression.
Moi, je trouve ça bien qu'on ait accès directement dans les campus à des espèces de mini-tentes de dépistage. Parce que j'en parlais la dernière fois, il y en avait une à la Sorbonne, Malesherbes, il y a quelques semaines. Et c'est vrai qu'on a vite la flemme quand on doit se déplacer nous-mêmes, prendre rendez-vous nous-mêmes, alors que là, tu fais « Ah, il y a un centre aujourd'hui, tiens, je n'en profiterai-je pas pour me faire dépister ?» Et tout le monde est sympa, et puis... comme il y a presque que des étudiants, il n'y a pas trop, je trouve, de honte ou de gêne et tout le monde est dans le même panier et ça décomplexe beaucoup le truc. Et je trouve ça bien parce que je pense que sinon, moi, je ne l'aurais pas fait. Et je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants dans le même cas. Dans ce...
Et est-ce que, comme ça, spontanément, vous sauriez où vous rendre si vous aviez pas vraiment une urgence, mais quelque chose qui nécessite d'aller assez vite? Par exemple, une entorse. Une entorse, c'est pas la peine d'aller à l'hôpital, c'est pas extrêmement grave, mais c'est douloureux, faut quand même aller voir un médecin au cas où. Est-ce que vous sauriez vers qui vous dirigez?
Moi, du coup, je suis à Jussieu, sur le campus Jussieu de la Sorbonne. Et je vois, en fait, il y a une porte où il y a marqué service de soins, mais elle est tout le temps fermée. J'ai jamais vu personne ni rentrer ni sortir de là. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. J'ai cherché une fois des informations sur le site, j'ai rien trouvé du tout. Après, peut-être que je sais pas chercher, mais en tout cas, je sais théoriquement où se trouve l'endroit, mais aucune idée de comment on y accède.
On va enquêter, cours d'honneur sur le coup.
Mais je crois que... vas-y. Pardon, non, bah, juste pour le centre Panthéon, moi, il y avait quelqu'un qui s'était... Enfin, c'était pas très grave. Heureusement, elle s'était coincée un cil, du coup, elle avait du mal à ouvrir l'œil. Et elle était allée voir donc, la seule référente en santé qui apparemment était... avait juste une fonction de pharmacienne, en fait. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas de... Mm-hmm. Apparemment, il n'y a pas de soins...
Oui, pour les urgences, je ne sais pas comment ça marche, mais je sais que moi, quand j'étais en licence, on avait accès aux soins pour notamment la santé mentale. Je crois que la Sorbonne propose justement des rendez-vous, des consultations avec des psychologues de manière gratuite, quoi. Parce que si on passe par Doctolib, en général, c'est très cher, ça frôle les 90 euros. Et là, la Sorbonne a tout un dispositif qui fait qu'on peut avoir accès à des séances de psycho. Thérapie, de psychologie.
Mais on a même droit à 4 séances par an, hein. Ça, c'est le gouvernement qui a mis ça en place. Ouais. Vous le saviez ?
C'est même, je crois que c'est monté à présent, je crois que c'est jusqu'à 8 ou même plus.
Je crois que c'est 10.
Lavinia, elle sait.
J'ai regardé ça récemment, c'est assez bien quand même. On peut faire un petit suivi au cours de 10 ou 12 séances. C'est pas mal comme info pour ceux qui en ont besoin.
Mais moi, je suis pas d'accord du tout sur le fait qu'on n'a pas accès aux médecins ou que c'est très long d'attente. Alors après, j'ai jamais été encore dans la situation où j'avais besoin d'un médecin tout de suite et que le prochain dispo était d'ici des mois. Mais moi, je vais raconter ma vie, mais là maintenant, j'ai des problèmes de dents et je sais que je peux avoir un rendez-vous dès mardi grâce à Doctolib. Et donc, du coup, je vois pas trop en quoi est-ce qu'à Paris, parce qu'il y a énormément de médecins et plus ou moins en général, et je trouve que l'accès est quand même assez large, quoi.
Après, je connais pas la cause, mais je sais que dans mon cas, par exemple, je suis une psychologue et c'est gratuit, mais j'ai eu genre 2 mois d'attente avant d'avoir un rendez-vous. Et pareil pour un autre rendez-vous médical, j'avais pris rendez-vous en novembre, j'ai eu rendez-vous que le mois dernier. Je connais pas les causes de ça, mais j'ai attendu 4 mois, quoi. Donc,
c'est peut-être en fonction du secteur,
je sais pas. Je sais que quand tu es un nouveau patient aussi pour le professionnel, ça met beaucoup plus de temps. Ils font passer en priorité ceux dont ils s'occupent déjà. Ça peut jouer.
Oui, mais via Doctolib, tu prends dans les créneaux disponibles et tu t'inscris, quoi. Donc, et souvent, c'est quand si tu as vraiment besoin d'une urgence et d'un rendez-vous dès maintenant, tu peux le prendre au plus vite.
Est-ce que tu mets des filtres, genre conventionné secteur 1, pour que ce soit pas trop cher ?
Non, parce que j'ai une mutuelle, j'ai une assurance. Donc, je m'en fous.
Il a de la thune, ouais.
Non.
J'aime bien me renseigner un peu sur les psys avant de prendre rendez-vous et je me suis rendu compte que les psys qui étaient à 1 étoile, nul, horrible, il m'a proposé des choses horribles, souvent ils avaient plein de rendez-vous disponibles. Par contre, les professionnels qui sont tout de suite un peu plus qualitatifs, c'est 1 mois, 2 mois. Donc je pense que dans l'urgence, si vraiment c'est une urgence, on peut trouver des rendez-vous pour le lendemain, pareil pour les médecins, mais quand on recherche... peut-être un traitement un peu plus qualitatif ou un professionnel un peu plus qualitatif. À Paris, ça passe haut quand même, les délais d'attente, surtout pour ce qui est psychologue. Et,
Attends, mais du coup, c'est comme les restaurants, genre tu peux mettre 2-3 étoiles, dire ouais, c'est bien, en revanche le serveur,
oui.
Bof.
Sur Google Maps, oui, je regarde toutes les adresses sur Google Maps et c'est noté, c'est pratique, il y a les commentaires. Voilà. Tu peux en rajouter et tout.
Après, je pense que ça dépend aussi vachement de ce que t'as besoin en termes de santé, parce que la santé, c'est large. Si jamais, je sais pas, t'as l'impression d'avoir la grippe, tu peux trouver un généraliste, je pense, assez facilement. Mais si t'as un problème qui est plutôt spécifique et que tu sais pas trop à qui t'adresser, c'est là où ça peut devenir compliqué, je pense. Parce que si t'as vraiment un problème technique et tu sens que, d'abord, très certainement, t'iras chez le généraliste qui va te rediriger vers quelqu'un d'autre. Mais ce quelqu'un d'autre, si justement il est assez spécialisé, ça peut prendre énormément de temps. Et ça, c'est arrivé à un cousin à moi une fois qui avait besoin, je me souviens plus exactement quoi, mais qui a eu un rendez-vous seulement 4 mois plus tard.
Pauvre, et comment il s'en est sorti ?
Ça va, il va très bien.
Okay.
On lui souhaite le meilleur, en tout cas.
On l'embrasse.
Voilà, c'est ça, il fait du management, il se sent très bien dans ce qu'il fait.
Ah, tout va bien alors.
tout va bien. Sinon, je sais pas, Lavinia, Jade peut-être. T'as pas entendu, tu...
Bah, en vrai, ça tombe bien parce que il y a 3 semaines, du coup, je suis tombée dans le métro et je me suis fait une petite entorse au pied. Rien de grave, parfait, mais voilà, justement.
Un exemple.
Parlons-en.
Je ne savais pas du tout quoi faire, surtout que du coup, moi, je suis en première année et je suis arrivée à Paris, du coup, il y a 6 mois. Et avant, du coup, j'étais à Rouen, enfin, on s'en fiche un peu. Mais et j'arrive en cours parce que du coup, c'était en route pour aller en cours et j'avais très mal. Mais je savais pas quoi faire parce que j'étais toute seule, mais bon, ils sont loin et ils s'en fichent un peu, je pense. Mais du coup, j'arrive en cours et voilà, enfin, j'ai très mal. Et du coup, j'en parle à une copine qui me dit, bah ouais, il faut prendre rendez-vous. Non, je sais pas. Enfin, moi, je veux bien prendre rendez-vous, mais j'ai jamais pris. Et du coup, bah, à ma compagnie, on était aux urgences, tout simplement. J'ai passé mon après-midi là-bas. Je suis rentrée à 13h. On est sorti, il était 18h. J'étais crevée, j'avais pas mangé. Mais je suis ressortie avec une ordonnance. Mais en vrai, ça a coûté très cher. Ça m'a coûté genre 55 euros. Et en vrai, c'est. Heureusement qu'il y a les appels, enfin, les aides de l'État, du coup. Parce que bah, quand tu travailles pas, etc., c'est un peu compliqué. Genre, ce genre de choses, on ne contrôle pas trop. Mais voilà, un bon exemple, finalement.
Merci. Bon, assez parlé de santé, place à la musique, hein, pour s'enjailler, sur des paroles certes un peu dépressives, mais une musique totalement psychédélique, tout comme la cover de l'album. Et oui, je parle bien des fameux Tame Impala et leur morceau « Let it happen ».
Let it happen.
C'était Let It Happen de Tame Impala, issu du troisième album du groupe australien. Ce titre a ressurgi durant le Covid, même s'il était sorti 5 ans avant. Comme quoi, le confinement a mis en avant la musique, contrairement au cinéma ou au théâtre. On reçoit d'ailleurs, et tout de suite, Stéphane Migliera et Mattia Pastore, professeurs de théâtre à la Sorbonne.
Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe.
Bon, chers auditeurs, on est conscient qu'on a beaucoup parlé de l'actualité anxiogène dans nos derniers épisodes. Aujourd'hui, on vous propose l'autre face de la pièce avec des pièces de théâtre. Une interview qui parle de politique, oui, mais avant tout de militantisme à travers l'art, de lutte à travers l'expression. Comment lier passion et conviction ? C'est tout de suite avec Alice et ses invités.
Hola, hola les filles, n'en dites pas plus. Effectivement, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir pour l'interview deux metteurs en scène et professeurs de théâtre italien en français à la Sorbonne. J'ai nommé Stéphane Migliarina, également maître de conférences en études italiennes et spécialiste de littérature et de théâtre, et Mattia Pastore, administrateur culturel et compositeur de musique. Bonsoir Stéphane, bonsoir Mattia.
Bonsoir, merci bonsoir, de nous recevoir.
Très heureuse aussi de vous avoir avec nous ce soir pour parler de votre art, de votre engagement idéologique à travers lui et de votre compagnie de théâtre à la Sorbonne, La Mascaretta. Alors, première question, vous préparez actuellement un spectacle les 2 et 3 juin en campus Malesherbes de la Sorbonne Université, Johanna Padana à la découverte des Amériques, une adaptation au féminin par Maria De Gioli, du monologue des dramaturges italiens Dario Fo et Franck Caramé paru en 1992. Texte engagé de dramaturge et metteur en scène militant, est-ce que c'est indissociable pour vous, théâtre et militantisme politique ?
Oui, absolument. Il n'y a pas de théâtre sans engagement politique, il n'y a pas de théâtre pour nous sans militantisme. Et puis, on s'est rendu compte aussi qu'au fil des années, que les étudiants, les étudiantes, comme vous, s'engagent dans un projet beaucoup plus s'ils se sentent, s'ils et elles se sentent impliqués. Et l'engagement, c'est vraiment au cœur de notre travail. On essaye de choisir des textes qui puissent résonner chez les jeunes étudiants, étudiantes, comme chez nous, dans le public, et qui est même si c'est des textes anciens, une puissance et un pouvoir militant pour changer les choses, parce que le théâtre, c'est vraiment notre façon de faire changer les choses.
Je suis plutôt d'accord avec mon co-metteur en scène. On choisit chaque année en effet des pièces du coup de théâtre italien qui ont traduit, qui parfois sont traduites, parfois n'ont jamais été traduites en français. Et c'est vrai que quand il s'agit de pièces un peu plus anciennes, même s'il y en a parfois qui ont déjà un message politique bien inscrit, on travaille justement beaucoup sur la mise en scène pour adapter certains textes à l'époque moderne, et surtout parce qu'on se rend compte que les théâtres parlent un peu à toutes les époques. Voilà, c'est toujours un geste de rébellion et de révolution.
Cette adaptation fait le récit d'une jeune femme obligée de se travestir et qui débarque aux Amériques, puis qui devient solidaire du sort des Amérindiens et des esclaves sous le joug des envahisseurs, des colons. Aujourd'hui, de plus en plus de pays affichent leur volonté de conquérir des territoires, Russie, Israël, États-Unis, Chine, Azerbaïdjan. Selon vous, qui serait la Johanna Padana de notre époque ?
T'as une idée ? Alors j'y vais.
Ok, d'accord. Vas-y.
Je crois que la Johanna Padana de notre époque, elle a pas de nom justement. C'est la femme qui se fait embêter dans le métro et qui continue à rentrer chez elle la tête droite. La femme qui va aider la personne qui tombe, etc. Je crois qu'elle est un petit peu partout autour de nous, cette Johanna Padana qui prend la cause des plus petits pour elle. Et donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça que Johanna Padana, ça vient. Enfin, c'est un nom qui veut rien dire. Un padane, pour ceux qui parlent italien, c'est de la plaine du Pô. Donc en fait, elle n'a même pas de nom de famille. Elle dit « je suis Johanna qui vient de la plaine du Pô en Italie ». Et c'est pour ça que son nom n'a pas de signification, parce qu'elle est un petit peu partout. Et aujourd'hui, je pense qu'elle n'a pas de nom. C'est la militante qui va accrocher des affiches à 5h du mat et qui court quand les flics arrivent. C'est toutes ces femmes qui lèvent le poing.
Oui, je suis complètement d'accord, comme d'habitude. Et c'est aussi la femme qui a le courage de dénoncer son agresseur, son violeur, sans avoir peur du fait que l'agresseur ou le violeur soit une personne connue, par exemple, ou avec un gros pouvoir sur les autres gens. Donc oui, Johanna, c'est un peu toutes les femmes du monde qui refusent de baisser la tête.
Absolument.
Votre troupe s'appelle La Mascaretta. Pouvez-vous nous expliquer le choix de ce nom ?
Ah oui, alors c'est un jeu de mots. Évidemment, quand on pense à l'Italie, on pense au masque, au théâtre italien du masque. Et donc, on avait pensé d'abord Mascherata, donc le bal masqué. Et en fait, on s'est dit que c'était un petit peu trop cliché. Enfin, je dis on, c'est avant que j'arrive, c'était Lucie Comparini, qui est la troisième comparse de ce groupe, et Isabella Montalcino, qui avait trouvé ce nom. Et il se trouve que Mascaretta, c'est aussi une petite barque à Venise. Non pas les belles gondoles que vous voyez quand vous allez dans les quartiers touristiques, mais c'est vraiment la barque dont on servait pour porter des choses à manger de part et d'autre de la ville dans la lagune. Et donc on aimait bien ce nom qui sonne italien, qui fait penser au masque et qui en même temps est proche du quotidien, se prend pas la tête et fait référence à quelque chose de très courant à Venise. Voilà.
Quel parcours avez-vous fait avant d'enseigner le théâtre à la Sorbonne ?
Ah oui, parce que mon parcours est beaucoup plus aventureux que le tien. Moi, j'ai fait. Donc, je suis italien, je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Je n'ai plus d'accent du tout, mais quand même, un peu, c'est resté. Moi, j'ai fait des études de musique à la base. Donc conservatoire, mais je suis né dans une famille très théâtrale parce que ma mère est toujours une metteuse en scène de théâtre amateur en Italie, donc j'ai grandi un peu dans les coulisses de théâtre, du coup ça m'a toujours beaucoup plu et intéressé. Et quand je suis venu m'installer à Paris il y a désormais 11 ans, Stéphane Miglierina, ici présent, m'a invité d'abord à composer de la musique pour des pièces de théâtre de la Sorbonne. Et puis, on a tellement bien travaillé ensemble que maintenant, ça fait 10 ans qu'on monte chaque année une nouvelle pièce.
Quant à moi, j'ai commencé étudiant, comme vous, à jouer dans une pièce, mais je me suis vite rendu compte que j'aimais pas trop être sur scène. Hein, ce moment avant de monter en scène, on a le trac et on dit « bon, mais de toute façon, une fois qu'on est sur scène, ça va passer ». Moi, une fois que j'étais sur scène, j'avais juste envie de partir. Et donc, j'ai compris que je voulais faire du théâtre, mais depuis les coulisses. Et c'est comme ça que je suis devenu metteur en scène. Il y a une rencontre qui m'a beaucoup marqué. Quand j'étais étudiant, quand je faisais ma thèse, j'étais à Paris 8. Et vous savez que Paris 8, il y a beaucoup d'art du spectacle, il y a beaucoup de théâtre de la contestation aussi. Et j'ai rencontré Catherine Monod, qui était prof et metteuse en scène là-bas, et qui m'a tout enseigné. On a commencé un cours qui était l'initiation de l'italien par le langage des planches. Donc c'était pour des étudiants qui n'avaient jamais fait d'italien et qui n'avaient jamais fait de théâtre, et on leur a enseigné les deux. Puis de fil en aiguille, on est devenu, on a monté des pièces, je suis devenu metteur en scène, et effectivement quand je suis arrivé à la Sorbonne il y a 12 ans, j'ai récupéré l'atelier de théâtre italien en langue française, et très vite j'avais besoin d'un pianiste, et Mathia vous a raconté la suite.
Voilà. Concrètement, en quoi consistent vos rôles respectifs au sein de la Mascaretta ?
Se prendre la tête.
Faire semblant de se disputer devant les étudiants.
Exactement.
Moi, je suis metteur en scène. Je suis aussi techniquement, officiellement, le prof. Donc, c'est moi qui suis censé donner les notes et prendre les décisions. Je m'occupe plutôt de la mise en scène, on va dire, spatiale. Enfin, moi, j'aime bien créer des images sur scène. Mais j'ai peut-être un peu plus de mal à diriger la psychologie des personnages, etc. Et donc, ça, c'est plutôt Mathia et Lucie qui le font.
Tout à fait. Et moi, évidemment, je suis rentré dans cet atelier surtout pour les côtés musicaux, d'abord. Il y a beaucoup de musique dans nos spectacles, c'est pour ça que ça nécessite d'un musicien. Mais en effet, c'est vrai, à fur et à mesure qu'on a grandi dans cet atelier, Stéphane est beaucoup plus sur la mise en scène générale, donc sur une vision du groupe, du plateau. Alors que moi, en effet, je suis beaucoup plus doué pour la direction d'acteur. Et donc pour engueuler les jeunes étudiants, on en a autour de la table qui se rappellent aussi de quelque chose. Mais j'aime bien ça parce qu'il y a tout un travail de transmission culturelle aussi qu'on fait, inconsciemment parfois, mais qu'on fait. Moi, je travaille aussi à côté de la Sorbonne en tant que comédien et musicien. Du coup, j'ai de l'expérience aussi sur d'autres spectacles, d'autres formats. Et je me rends compte que tout mon bagage culturel de l'extérieur, en fait, je l'amène à chaque fois en Sorbonne et j'arrive à le transmettre aux étudiants.
Quelle est votre pièce de théâtre préférée ? Je sais, c'est une question compliquée. Ou alors votre auteur préféré ?
Ah, pas de celle qu'on a montée.
En général, comme tu veux.
Ok. Vas-y. Sinon je l'ai.
Vas-y.
La grammaire des mammifères. C'est une pièce de théâtre exceptionnelle dont je ne me souviens plus l'auteur, mais très récente en tout cas, qui a été écrite en 2022, je crois, et que j'ai eu l'occasion de voir au Montfort Théâtre il y a 2 ans. Et c'est une pièce de théâtre de l'absurde, donc un peu sur le style de Ionesco, mais dans les années 2000. Et c'est vraiment un tableau de toutes les hypocrisies de la société d'aujourd'hui. Voilà.
Moi, je dirais peut-être très simplement Bertolt Brecht, et en particulier Mère Courage, et aussi l'Opéra de Katsu. Ce sont des pièces que je rêverais de monter. Alors malheureusement, la Mascheretta, on est obligé de monter des textes italiens, mais j'aimerais aussi aller un jour du côté de Brecht. Et puis pour rester sur l'Italie, Dario Fo, dont on a monté déjà plusieurs textes, qui est un auteur engagé, qui est un auteur qui sait dire les choses les plus graves tout en riant. Et il écrivait avec sa femme, Franca Rame, on parlait de femmes tout à l'heure, faut pas les oublier. Il a eu le prix Nobel, mais elle l'aurait mérité aussi. Et voilà, je dirais Dario Fo et Franca Rame pour tout ce qu'ils ont écrit de politique.
Que diriez-vous à nos auditeurs pour les convaincre d'aller voir du théâtre, pour ceux qui n'étaient pas encore convaincus après cette interview?
Et bah, allez voir du théâtre, parce que le théâtre est là pour nous poser des questions à nous-mêmes et nous mettre face à notre contradiction. Et du coup, si on n'y va pas, on perd la possibilité de grandir, voilà, et d'apprendre quelque chose. Parce que la télé, les séries, les cinémas, c'est beau, mais c'est toujours monodirectionnel, unidirectionnel, je ne sais pas comment on dit, voilà. Alors que les théâtres, c'est surtout les théâtres que nous on fait en plus, c'est quelque chose qui est toujours joué avec le public. Tu n'es jamais un spectateur passif.
Moi, je dirais pour rêver, il y a effectivement se remettre en question, se poser des questions comme tu viens de le dire, mais aussi pour entrer dans un monde magique. Le théâtre, c'est un spectacle plein de facettes différentes, la lumière, les couleurs, la musique, le texte, les corps, les voix, et donc aller au théâtre pour rêver, pour vous échapper.
Enfin, vous n'allez pas échapper à la question phare qui conclut les interviews de Cours d'honneur. Que représente la Sorbonne pour vous?
Je laisse répondre Stéphane, parce qu'elle a un souvenir très mignon qu'il m'a dit tout à l'heure dans la cour.
Bah, quand j'ai eu mon poste ici, il y a à peu près 12 ans, quand on fait le premier cours en Sorbonne et non pas à Malesherbes, et qu'on sort dans la cour d'honneur et qu'on voit la chapelle illuminée, et surtout qu'on voit le plafond de la bibliothèque avec toutes ses fresques, forcément on est émerveillé. Donc je vais dire l'émerveillement.
Moi, j'ai pas un rapport si intime à la chapelle de la Sorbonne, mais moi, c'est la Sorbonne, c'est quelque chose qui m'a donné la possibilité de faire ce que j'aime.
Merci beaucoup Stéphane Miglierina et Mattia Pastore d'être venus ce soir pour nous parler de votre passion pour le théâtre et de votre théâtre pour le militantisme. J'encourage nos auditeurs à aller voir la prochaine pièce de théâtre de la Mascheretta, j'ai nommé Johanna Padana à la découverte des Amériques, le 2 et 3 juin à 19h au campus Malesherbes, et c'est gratuit, donc pas d'excuses. Argument bonus, il se trouve que j'aurais pu oublier de préciser que j'ai l'honneur de faire partie de la Mascheretta, donc je suis bien, très bien placée pour vous dire que vous ne serez pas déçus du déplacement. Un dernier merci final, Stéphane et Mattia, c'était un plaisir de vous écouter ce soir. À bientôt peut-être sur Cours d'honneur.
Merci à vous.
Merci.
Oui, merci beaucoup à nos invités. J'ai moi-même fait partie de cette troupe et c'était vraiment une excellente... En soi, on l'a pété, mais c'était une excellente expérience. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir les spectacles qui sont toujours très très bien. Sur ce, rien de mieux que les pièces pour nous faire rêver, rien de mieux que le théâtre pour nous faire rayonner. Quoique le beau temps à lui seul suffit. Dernièrement, le temps nous a régalé. C'était le mois d'avril en avant. C'était le ciel bleu et le soleil haut. C'est le temps est bon de bon entendeur sur Cours d'honneur.
si le soleil donne envie de flâner dans le marais, rien de mieux que de s'asseoir confortablement dans son siège rougeâtre et bien douillet d'une salle de cinéma. Tout de suite, les bons plans pour profiter des cinémas indépendants.
C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Allez la vedette, la table !
Aujourd'hui, direction les salles obscures sans faire trembler le compte en banque. Être étudiant, c'est souvent jongler entre plaisir et budget serré, et le ciné ne fait pas exception. Tarifs réduits, abonnements, cinéma indépendant et bons plans méconnus, tout est bon à prendre pour profiter du grand écran sans se ruiner. Ciné étudiant, c'est la rubrique présentée par Jade qui transforme le statut étudiant en véritable ticket d'entrée pour le 7e art.
On commence rue Champollion, en plein cœur du quartier latin, là où se cache la Filmothèque. Ce cinéma indépendant propose des séances à 5 euros pour les moins de 26 ans. Donc si comme moi vous êtes fan de Wong Kar-wai, sachez qu'il est à l'affiche une bonne partie de l'année. Plus d'excuses pour découvrir ce maître du cinéma. On poursuit avec un incontournable, la Cinémathèque française. Pour les moins de 26 ans, profitez des rendez-vous découvertes avec un film à 1 euro chaque semaine. Alors on se retrouve samedi 12 avril à 20h30 devant Django Unchained de Quentin Tarantino en version originale. Enfin, pour la team Lefto, direction le studio des Ursulines dans le 5e arrondissement, car toutes les séances avant 13h sont à 4,50€. De quoi rebrancher notre réveil même le week-end. Passons au numérique avec Ozac, qui vous propose des réductions allant jusqu'à moins 50% sur les sièges vides de ses cinémas partenaires, soit des places à 5 ou 6 euros en moyenne, notamment dans les salles de notre cher quartier latin, disponibles sur l'application ou sur leur site internet. Si vous voulez aller au cinéma toutes les semaines ou plus, les abonnements sont faits pour vous. Au Forum des Images, la carte Forum Liberté est disponible pour seulement 5 euros et vous permet de profiter de toutes vos séances à un tarif unique de 4 euros pendant un an. Pour les plus passionnés, UGC propose un abonnement étudiant à 19,90€ par mois, un coût qui peut sembler élevé mais qui revient à seulement 2 euros la séance si vous y allez deux fois par semaine. Et si le cinéma était directement sur notre campus ? C'est ce que Cinéfac nous propose. En plus de leur proximité, leurs séances sont gratuites et régulières. Au programme, des avant-premières et des ciné-débats. De quoi ravir tous les alumni. Enfin, si vous avez raté le printemps du cinéma la semaine dernière, pas de panique. Il vous suffira d'un gros pot de pop-corn pour patienter jusqu'à la fête du cinéma qui se tiendra du 29 juin au 2 juillet 2025. Vous pourrez ainsi profiter partout en France de séances à 5 euros. Être jeune et fauché, à la Sorbonne, c'est presque un privilège. Entre les trésors du quartier latin et nos avantages étudiants, notre terrain de jeu cinéphile est d'une richesse infinie. C'était Ciné étudiant, la rubrique qui transforme notre carte étudiante en passe illimitée pour le cinéma. À très vite dans les salles obscures.
Merci Jade, merci pour toutes ces belles références, Wong Kar-wai, Tarantino, ça fait plaisir. Pendant ce temps-là, nous on se demande c'est quoi être étudiant à la Sorbonne.
Et justement, c'est la question à laquelle répond Cours d'honneur.
Vous êtes toujours sur Radio Sorbonne, la radio étudiante qui fait le tour de la fac et de ses campus.
Il est 18h37 sur Radio Campus Paris.
On prend la direction de la Sorbonne en personne.
Françoise Sagan, romancière précoce et talentueuse, a marqué son époque par son style libre et audacieux. Entre passion, scandale et élégance, son œuvre et sa personnalité continuent de fasciner. Ce soir, Chirine dresse le portrait de cette écrivaine inoubliable.
Figure incontournable de la littérature française, elle a marqué le XXe siècle par son franc-parler et sa liberté assumée, j'ai nommé Françoise Sagan. Née en 1935 dans le Lot, elle grandit dans un Paris bourgeois. Son enfance est malheureusement tourmentée par la guerre. Elle vit sous l'occupation et ses parents cachent même des juifs, bien qu'elle décrive ses géniteurs comme vaguement antisémites.
Paris brisé, Paris brisé, Paris martyrisé.
Après la libération, sa scolarité est tout sauf tranquille. Elle est renvoyée du collège pour avoir pendu un buste de Molière avec une ficelle à une porte. Parce que, je cite, le cours sur lui était particulièrement ennuyeux. Et pour avoir asséné une bonne gifle à un camarade. Elle est ensuite envoyée au couvent, puis virée du couvent pour, je cite encore, manque de spiritualité. Mais une chose est sûre, cette enfant infernale, comme elle se décrit elle-même, adore la littérature. Même si elle n'est pas la meilleure élève, elle dévore Camus, Rimbaud, Cocteau, Stendhal, Colette, une passion qui la pousse à adopter le nom de Sagan, inspiré d'un personnage de Proust. Car oui, à la base, Françoise n'est pas Sagan, mais Quarez. Plus tard, elle obtient son bac avec difficulté et débarque enfin à la Sorbonne. Mais entre deux cours, elle préfère les boîtes de nuit et les clubs de jazz de Saint-Germain-des-Prés. Elle enchaîne les fêtes, elle boit, elle s'amuse.
gaspillé mon temps, gaspillé mon argent, je gaspillais ma vie, et à 18 ans, c'est absolument ce qu'il faut faire.
Et c'est justement à cette époque, sur les tables du café Le Cua, qu'elle commence à écrire son premier roman, son fameux roman, son œuvre signature, Bonjour Tristesse, un livre qu'elle publie à seulement 18 ans en 1954.
Françoise Sagan avait 18 ans et avec ce livre gagna aussitôt le surnom de charmant petit monstre. Curieusement, c'est un tout autre mot que tristesse qui revient dans ce premier roman d'une maîtrise stupéfiante. C'est le mot plaisir.
Le mot « plaisir » qui à l'époque résonne comme un plaisir coupable incarne son roman qui raconte l'été torride de Cécile, 17 ans, sur la Côte d'Azur avec son père. En troisièveté et aventure amoureuse, elle vit une relation libre avec un certain Cyril, un scandale. Dans la France bien pensante de l'époque, dans la France de René Coty, une adolescente qui parle d'amour sans mariage, c'est un choc pour la critique. Les réactions fusent, décadence immorale honteux, choquant, ce livre qui parlait d'amant, qui parlait de faire l'amour pour le plaisir et non parce qu'on aimait ou parce qu'on allait se marier, a secoué tout pays, des chaumières de Normandie aux appartements de Neuilly. Pourtant, le style désabusé et la liberté du ton captive, le roman remporte le prix des critiques, devient best-seller en France, séduit les États-Unis et est même adapté au cinéma 4 ans après sa sortie. Sagan devient la légende Sagan, elle roule en voiture de sport, elle flambe au casino, elle frôle la mort aussi dans un accident en 1957, mais elle continue d'écrire 20 romans, 8 pièces de théâtre, des scénarios, même des chansons. Elle ne se contente pas d'être une plume, elle crève aussi l'écran et affronte avec audace les journalistes moralisateurs.
J'aime les boîtes de nuit, j'aime les gens qui y sont, j'aime boire, j'aime danser, j'aime faire des bêtises, j'aime en dire. Et puis j'ai 30 ans et puis j'ai pas commencé à vivre comme un crouton parce que je suis soi-disant une intellectuelle, ça me fatigue. J'aime danser, dans 15 ans, je serai probablement moins de cavalier pour danser que maintenant.
Oui, alors vous aimez donc vous amuser?
Énormément, plus que n'importe quoi d'ailleurs.
Françoise Sagan s'éteint malheureusement en 2004 à l'âge de 69 ans. Avec son humour habituel, elle écrivit sa propre rubrique nécrologique. Je cite « Fit son apparition en 1954 avec un mince roman, Bonjour Tristesse, qui fit un scandale mondial. Sa disparition, après une vie et une œuvre également agréable et bâclée, ne fut un scandale que pour elle-même. » Évidemment, son empreinte littéraire demeure immense. Son style frivole et anticonformiste continue d'inspirer. En 2010, le prix Françoise Sagan voit le jour pour récompenser les nouveaux talents, avec des jurys prestigieux comme David Foenkinos ou encore Delphine de Vigan. Et aujourd'hui, Bonjour Tristesse revient sur grand écran après une première adaptation en 1958, comme on l'a dit tout à l'heure. Une nouvelle version sortira en mai, réalisée par la Montréalaise Durga Shoebows avec Alyosha Schneider dans le rôle de Cyril. Une preuve de plus que le mythe Sagan est toujours vivant.
Elle restera à jamais une icône littéraire et un modèle de la libération sans modération des femmes, de son époque ou de la nôtre. Elle savait parler de l'amour en cru et en vrai dans ses romans qui ont été traités d'écrits de malades. Amour malade donc, ou Love Sick, tout de suite, titre d'Asa Proki aux côtés de Murat Musa.
The weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin, feathered road. Cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro. Promethazine, yeah, stepping stone. Oh, they acting up, get your weapons wrong. They only killing time, another second gone. I heard your man at home, now you melatonin. But you acting young, and you hella grown. She giving me love, but it fuck my energy up. Every time it's finna be summer, only got the memories of us. And now we industry lovers, they making enemies of us. I mean, them times we in public, they drain this energy from us. Visit Italia,
Be my señorita, if either or I be the either way you need a visa. I ain't talking about MasterCards, debit cards either. Credit charge, Kermit the Frog, margaritas? Yeah, I heard she got a man, homie. Yeah, yeah, you wanna lay the hands on me. Yeah, but he should see the way she dance on me.
C'était ASAP Rocky, qui n'a toujours pas sorti son album d'ailleurs, et Muramasa sur Cours d'honneur avec Love Sick, un savant mélange d'électro et de rap qui nous met de bonne humeur. Et en parlant de bonne humeur, restez avec nous pour la chronique pavée.
Shut up.
Ce qui est inconnu ou mal connu excite l'imagination.
Ils boudent parce qu'il y a des tas de journalistes qui peuvent venir et qui ne sont pas venus.
Ah bon ? Quand ils disent qu'ils viennent, ils ne viennent pas ?
On pourrait ne pas le croire, mais la Sorbonne n'est pas seulement un repère d'étudiants en panique avant les examens, c'est aussi une véritable star de cinéma. De Hollywood aux films français les plus cultes, elle a joué dans des romances, des drames et même des révolutions. Alors installez-vous confortablement, car Ellie nous emmène faire un tour des plus beaux rôles de la Sorbonne sur grand écran. Silence, moteur et action.
Installez-vous confortablement, sortez le popcorn et coupez votre téléphone. Ou pas d'ailleurs, on va pas vous virer de la salle, mais bon. Car aujourd'hui, on parle cinéma et Sorbonne. Et oui, cette vieille dame respectable de l'université parisienne n'est pas seulement un temple du savoir où les étudiants suent sur leurs copies. C'est aussi une véritable star de cinéma. La Sorbonne, c'est un peu la Meryl Streep des facs françaises. Classe, intouchable et toujours impeccable à l'écran. On la retrouve dans plein de films, parfois en rôle principal, parfois en simple figurante, mais elle est toujours là, à nous rappeler qu'elle est LA référence. Prenez par exemple Charade, en 1963, avec Audrey Hepburn et Cary Grant, juste ça déjà.
Why do you want a divorce? Because I don't love him, and he obviously doesn't love me.
But that's no reason to get a divorce. With a rich husband and this year's clothes.
Une scène culte du film se déroule juste devant la fac. Audrey Hepburn, chiquissime dans son manteau impeccable comme à chaque fois, traverse la place de la Sorbonne et on se dit tous « Pourquoi moi, quand je sors de la fac, j'ai l'air d'un zombie en fin de semestre ?» Et que serait Paris sans ses amours contrariés ? Les chansons d'amour de Christophe Honoré, sorties en 2007, nous offrent des balades sentimentales dans le quartier latin. Et bien sûr, la Sorbonne est là, théâtre et témoin silencieux des cœurs qui battent et des drames amoureux. Ça fait rêver. Mais attention, la Sorbonne, ce n'est pas que de la romance et des belles façades. C'est aussi un décor historique, des choix pour les films engagés. Forcément, on ne peut pas parler de la fac sans évoquer mai 68.
Allez à l'Opéra ! On prend là-bas ! On prend la Bastille ! On fait la Révolution !
Dans Le Péril Jeune, réalisé en 1994 par Cédric Clapiche, on sent l'âme de cette époque à travers les souvenirs de lycéens devenus adultes. Bon, ils ne sont pas encore à la fac, mais on les imagine très bien manifestés devant la Sorbonne quelques années plus tard. Et puis, il y a Après mai, d'Olivier Assayas, en 2012, qui plonge carrément dans l'après 68 avec des étudiants de la Sorbonne qui cherchent encore à refaire le monde. Mais qu'entre deux partiels. Oui, parce que militer c'est bien, mais valider son année c'est pas mal non plus. La Sorbonne, c'est une star même à Hollywood.
She's got a point. She's an icon. She's a legend. And she is the moment.
En effet,
now, come on now.
En effet, elle a même conquis les Américains. Dans Julie et Julia, sortie en 2009, Meryl Streep encore, oui, encore elle, mais c'est pour notre plus grand plaisir, joue Julia Child, la célèbre cuisinière américaine qui a appris l'art du bœuf, ou ça d'après vous. Et oui, exactement, à la Sorbonne. Bravo à tous. Oui, oui, on y enseigne la gastronomie aussi. Imaginez passer d'un cours de littérature classique à un cours de sauce béarnaise. Ça aurait de la gueule, non ? Franchement, je sais pas vous, mais moi, je m'y vois bien. Bref, que ce soit pour des romances, des drames engagés ou même des biopics culinaires, la Sorbonne est partout. Elle traverse le temps, impassible et continue de faire rêver réalisateurs et spectateurs. Comme quoi, même quand on est une fac sérieuse et historique, on peut avoir un sacré agent à Hollywood.
Merci beaucoup Ellie pour cette super chronique sur notre très chère et aimée Sorbonne. Vous êtes toujours dans Cours d'honneur justement sur Radio Campus Paris.
Vous le savez, le temps est bon, le ciel est bleu et dans Cours d'honneur, on aime vous rendre heureux.
On aime aussi vous balader dans notre quartier, le 5e, sur la rive gauche où l'on pense.
Plutôt que sur la rive droite où on dépense.
Mais aussi vous balader dans nos facs et nos campus.
C'est maintenant l'heure de la carte postale.
À chaque fois qu'il revient, il m'apporte quelque chose. Il m'écrit.
Ah oui, les cartes postales.
ça y est, le printemps est arrivé et quoi de mieux pour Cour d'honneur que de retourner à sa source, à ses racines. Une carte postale de cerisier en fleurs et non, ce soir il est temps de retourner dans la vraie Cour d'honneur de la Sorbonne et c'est un duo d'étudiants qui nous y emmène à cette occasion. Florian, ancien étudiant en médecine reconverti en philosophe et Margot, étudiante passionnée d'histoire, une carte postale réalisée par Clara et Lavinia.
On arrive à travers une petite entrée et puis après, il y a deux grosses colonnes et on passe sous cette arche et on voit toute la lumière et justement toute la bise qui est juste devant, juste au-dessus. Et juste à droite, au moment où on arrive et on dépasse la colonne, on voit un temple grec avec une horloge. Et justement, cette horloge, disons qu'on voit pas trop, mais si on regarde par-dessus la barrière, et ben on a l'impression que c'est posé sur un livre. Donc ça peut être assez drôle. Et puis on voit la chapelle et puis la croix sur un cercle.
Ce qui m'a marqué le plus au début, et ce qui m'a surpris, c'est l'éparpillement des gens autour de la cour. Parce qu'il n'y avait personne au centre. Ça allait beaucoup avec le côté très majestueux, très impressionnant des murs et des sculptures, de l'or, quoi. Et je trouvais ça un peu comme si on n'osait pas vraiment occuper l'espace qui pourtant était le nôtre.
Alors normalement, au niveau de l'entrée de la Sorbonne, quand on rentre et qu'on y va tout droit, il y a un petit carré, justement, on peut se déplacer. Et normalement, il y a peut-être les plans de la Sorbonne, je crois, je suis pas sûr. Mais si vous regardez, il y a des petites lignes et c'est assez marrant. Donc là, on se déplace au niveau du carré. Et puis on va y lire. Le plan tracé sur le pavé de la cour est celui de la chapelle primitive édifiée en 1326 par Robert de Sorbonne. Il y a un petit plan, un petit tracé tout autour. Et souvent les étudiants, ils arrivent et juste ils vont en cours et ils remarquent pas réellement ça. Mais il y a un petit plan.
La fresque s'appelle la fête du lundi. Et donc un ami m'a expliqué que on peut rien vraiment trouver dessus sur internet quand on cherche. Et c'est juste une représentation sûrement des premiers étudiants de la Sorbonne quand ils sont venus. C'est une représentation joyeuse d'une mixité de leurs origines. Ils venaient un peu partout de France. Et ce qui les rejoignait, c'était la religion, a priori. Mais c'est vraiment une représentation qui se veut joyeuse. Voilà, on voit des trombones plein de couleurs qui rappellent beaucoup les couleurs du drapeau français quand même, faut le dire. Très musical et...
Si j'avais l'honneur d'être chirurgien, je ne me servirais que d'instruments d'une hygiène et donc d'une propreté irréprochable.
C'est Pasteur, il est assis, il a quoi? C'est une petite pomme là? C'est peut-être un petit fruit, je sais pas du tout ce qu'il a dans la main. Une petite sphère et un petit regard un petit peu dédaigneux sur le côté et puis il regarde à droite et il fait... C'est qui ce gars?
Je me pose souvent ici pour fumer, comme avec des potes.
Je vais pas trop en cours. Je traîne un peu plus à la cour d'honneur parce que c'est un endroit assez reposant et on s'y sent vraiment bien. Et justement, on peut arriver et puis parler avec du monde. Et je pense que c'est le lieu qui est assez sécurisant. On est dans un cloître. C'est assez reposant de voir les gens et puis de prendre des cafés.
Et voilà. Et là, avec les beaux jours, on se rend compte que les étudiants ont en fait envie de s'asseoir par terre pour être au soleil, tout simplement. Donc c'est assez drôle de voir que, en fonction de tout simplement du temps, de la météo, on arrive à casser ce code.
Merci Clara et Lavinia pour cette carte postale très humoristique. Et merci à Florian et Margot qui sont très drôles. Et merci pour ces bruitages, c'était excellent. Merci. C'est malheureusement la fin de Cour d'honneur, épisode 13.
Merci de l'avoir suivi. Merci à nos invités, Stéphane Miglierena et Mattia Pastore.
Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Radio Sorbonne Université existe sur Instagram, sur les plateformes de podcast et dans ta fac aussi.
Merci à toute l'équipe surtout.
Merci à Lavinia.
Merci les filles, je suis contente de savoir que la carte postale vous a plu.
C'est super.
Merci à Clara du coup aussi.
Très honorée d'avoir fait la carte postale de cour d'honneur.
Très bon duo. Merci à Ellie.
Merci à vous, encore un plaisir d'être ici et puis à la prochaine.
À la prochaine, merci à Jade, nouvelle recrue, merci pour ces bons plans cinéphiles.
Merci à vous de m'accueillir du coup pour ma première émission.
Un plaisir.
Et merci à Alice également pour ce super interview.
Merci les filles, mais surtout merci à mes invités, hein, c'est eux qui ont fait le plus gros du travail. J'ai adoré cet épisode, je ne sais pas pourquoi, peut-être L'odeur du printemps, il m'a fait du bien.
À nous aussi, et merci à Elias, le fameux Elias.
Eh ben, merci à vous toutes et à vous toutes pour ma certainement ma dernière en présentiel, malheureusement.
Oui, c'est vrai.
Parce que je pars en stage à La Rochelle après, donc je serai là, mais...
De loin.
De très loin, mais toujours dans vos cœurs.
Oh, nous aussi, c'est mignon.
Je vais pleurer, merci à Thomas, évidemment.
Ouais, j'ai grave hâte de recevoir les résultats de mon master.
Mais évidemment à Radio Campus Paris, merci à eux pour le soutien inconditionnel et pour le partenariat.
N'oubliez pas, Cours d'honneur passe en mode bimensuel, un épisode toutes les deux semaines.
Et n'oubliez pas, même si mon master vous rend malade, il y a toujours des solutions.
Une pièce de théâtre, une bonne émission de radio.
Ou tout simplement, aller faire un tour au jardin du Luxembourg.
Soyez vous-même.
Soyez fous même.
Restez curieux.
Restez avec nous. On vous aime.
Bisous, ciao.
Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais, hein.
Bah, ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement, et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit, ou...
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.